Vous savez, hier, lors du service à Robertmont, on a chanté deux chants sur les ailes de la foi. Et j'ai vu ces chants d'une toute autre façon parce que c'était la première fois, avant chaque cantique, qu'on lisait, qu'on disait qui était l'auteur, mais pourquoi l'auteur avait entre autres, composé ce chant-là. Et c'est souvent, je pense que tous les chants, presque, en tout cas sans exception, eh bien, sont le fruit d'une expérience vécue par celui qui a composé le chant. Et à partir de là, peu importe si c'est un vieux chant, on chante dorénavant ce cantique-là avec derrière soi l'expérience que la personne a vécue. Et on a chanté hier tout près de toi, mon Dieu. Et quand vous écoutez, quand vous regardez qui a composé ça, cette femme, ce qu'elle avait vécu. Eh bien, vous vous êtes touché, vous vous mettez à sa place et les paroles du cantique finalement prennent un tout autre sens parce que elle a composé ça pourquoi? Parce qu'elle était perdue, elle était infirme, elle vivait comme handicapée et finalement elle a découvert le Seigneur et ce qui l'a fortifié, eh bien, elle le répète dans ce cantique-là. Tout près de toi, mon Dieu, tout près de toi. Et on a chanté un autre cantique, je me souviens pas du titre, mais c'était la même chose, c'était le fruit d'une expérience vécue par quelqu'un, pas nécessairement chrétien, mais suite à sa conversion, ou suite à une libération que Dieu lui a donnée, eh bien, le Saint-Esprit lui met à cœur de composer quelque chose. Elle le met sur papier pour que les croyants puissent après le chanter pour la gloire de Dieu. Alors, s'il y en a qui ont qui connaissent finalement les raisons pour lesquelles certains cantiques ont été composés, eh bien, vous m'envoyez ça dans ma boîte email et puis ça me ferait un plaisir le dimanche matin de le lire. Et vous allez voir que c'est très fortifiant et peu importe que le style soit vieillot, peu importe que l'air soit vieillot, soit plus de notre époque, on le chante vraiment avec un autre esprit, quoi. On se dit, Seigneur, si tu as fait du bien à cette personne-là, et je sais pourquoi ça lui a fait du bien, eh bien, moi, je vis cette même situation-là, et finalement, ces paroles-là, elles résonnent dans mon cœur, et Seigneur, fais-moi vivre la même chose que cette personne-là a vécu à ce moment-là. Et c'est extraordinaire, en tout cas. En tout cas, je trouvais ça bien. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. C'est sûrement quelqu'un qui a une délivrance, qui a chanté ça, qui est passé par une grande délivrance et qui a voulu en laisser des traces à travers un cantique. Je vous invite à tourner avec moi dans la parole de Dieu, dans 1 roi. On va continuer notre série avec Élie. 1 roi, chapitre 17. Ce matin, on va lire les versets 17 à 24. Bon, il y aurait une belle prédication à faire sur les versets 8 à 16, sur le pot de farine, l'huile et tout ça, mais je ne veux pas. Je veux pas passer l'année non plus dans cette série-là, mais on va essayer d'aller chercher finalement ce que nous avons besoin pour nous maintenant en tant qu'Église. Et on va lire ce matin les versets 17 à 24. Un roi 24, c'est presque au début de la Bible, dans l'Ancien Testament, pour vous aider. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoquant l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Prions. Seigneur, toi qui es le Dieu des vivants, toi qui ramènes de la mort à la vie, Seigneur, eh bien, nous voulons te louer ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que nous étions morts spirituellement et tu nous as fait revivre en Jésus-Christ. Et Seigneur, tu nous as donné un esprit pour comprendre ta parole qui est esprit et vie. Et ce matin, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs afin que tu puisses nous enseigner toute ta vérité. Afin aussi, Seigneur, que cet enseignement que nous allons recevoir de ta part ne demeure pas lettre morte, mais qu'elle puisse être, elle produire du fruit, Seigneur, digne de la repentance, et que nous puissions continuer, Seigneur, à progresser dans notre foi avec toi. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. À la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous avons laissé le prophète Élie chez la veuve de Sarepta. Et aujourd'hui, on va observer finalement les événements qui vont bouleverser autant la vie d'Élie que la vie de la veuve. Et nous allons apprendre certaines choses concernant l'épreuve et certaines choses sur la piété. Alors, il y a trois choses que j'aimerais qu'on puisse retenir concernant l'épreuve aujourd'hui, parce que même si ça fait plusieurs années qu'on est chrétien, on se pose souvent toujours les mêmes questions. Pourquoi? 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 Et la première chose que j'aimerais rappeler ici, et c'est à travers ce récit, c'est que Dieu fait vivre de dures épreuves aux croyants. Dieu fait vivre de dures épreuves aux croyants. C'est pour ça que l'évangile de la prospérité ne tient pas, n'a pas sa place dans l'Église de Jésus-Christ. C'est un faux évangile, parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous dit que le chrétien, à partir du moment où on devient chrétien, qu'on ne sera jamais malade. Il n'y a aucun passage dans les Écritures qui nous dit que quand on devient chrétien, on ne risque pas de devenir pauvre. Et rien dans la Bible qui nous dit que quand on devient chrétien, on ne passera pas par des épreuves. Mais encore plus, c'est qu'on ne sera pas nécessairement épargné de dures épreuves que les non-croyants vivent, ne vivent jamais quoi. Et on va voir pourquoi. Et plutôt que de nous décourager, eh bien, je pense que c'est encourageant pour nous. C'est encourageant pour nous de savoir que Dieu fait vivre de dures épreuves à ses enfants. Élie, la veuve et le fils, ici dans le texte, sont tous les trois, eh bien, heureux dans l'humble demeure de Sarepta. On sait qu'Élie était un prophète très actif, mais qu'il est content de bénéficier ici de quelques mois de tranquillité. Le texte nous dit plus ou moins 3 ans. Il n'est pas trop pressé, je pense pas qu'il est trop pressé de quitter cet endroit, parce qu'à sa grande joie, lorsqu'à chaque jour il ouvre ce pot de farine et cette cruche d'huile, eh bien, il y trouve toujours de quoi manger. Et c'est important pour lui, dans une période de grande sécheresse, quoi, dans un pays où il n'y a pas plu depuis près de 3 ans. Et chaque soir, lorsqu'il va se coucher, il ne reste plus rien, mais le matin, il y a de nouveau de la farine dans le pot et de l'huile dans la cruche. Et Élie ici et la veuve savent que la parole de Dieu est digne de confiance et chaque jour, ils vont constater ensemble que Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Vous êtes amen à ça? Dieu pourvoit aux besoins de chacun de ses enfants. Frères et sœurs, lorsque nous vivons dans l'aisance ou lorsque nous avons la vie facile, au bout du compte, ce n'est jamais pour notre bien. Nous avons tous tendance à nous enorgueillir et à négliger notre communion avec Dieu lorsque nous ne dépendons plus de lui. Et souvent, on commence à agir comme les gens du monde, parce que celui qui n'a pas le cœur brisé et contrit tous les jours est en danger spirituellement. Psaume 34, verset 19, « Car l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Et frères et sœurs, l'épreuve est là pour nous rappeler qu'on doit dépendre jour après jour du Seigneur. Quand on vit trop dans l'abondance, souvent, on est porté à s'enorgueillir. Et on est porté à faire en sorte que Dieu ne soit plus le premier dans nos vies, parce qu'on ne voit pas de danger immédiat autour de nous, visuellement. Mais le grand danger, c'est spirituellement. Le grand danger, c'est qu'on commence à compter sur nos propres forces pour gagner notre vie, pour avancer, pour progresser. Et souvent, Dieu est derrière. Dieu n'est plus devant en train de combattre pour nous, mais Dieu est derrière. Et on est porté à s'enorgueillir. Alors, Dieu, qui est infiniment sage, provoque toujours dans notre vie des changements qui très souvent sont pénibles et douloureux parce qu'ils font partie des épreuves que nous sommes appelés à vivre. C'est ce genre de changement qui va maintenant frapper le petit foyer de Sarepta. Ils ont été préservés de la mort par un miracle quotidien de la part de Dieu, Mais la situation, elle va maintenant changer ici dans le texte. Verset 17. Nous lisons qu'après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. La situation ne s'améliore pas pour l'enfant. Le texte nous dit que la situation ne s'améliore pas. Et la maman, bien sûr, elle est profondément attristée, profondément affligée. Le temps passe et elle se rend compte, en fait, la mère, qu'elle est en train de perdre son enfant. À un moment donné, le cœur brisé, elle voit qu'il ne respire plus et que ce qui se trouve sur ses genoux, eh bien, c'est le petit cadavre de son fils. Et si la perte de quelqu'un qu'on aime s'avère toujours être une rude épreuve pour qui que ce soit, cela est d'autant plus difficile à supporter dans un foyer miraculeusement protégé par Dieu. C'est intéressant, hein? Dieu qui les préserve de la mort, il va les nourrir. Et la question qu'on peut se poser, écoute Seigneur, tu les as préservés de la mort en leur donnant ce qu'ils avaient besoin pour manger jour après jour, pendant 3 ans. Et là, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends la vie de cet enfant-là? Il y a des difficultés à comprendre. Quoi. Pourquoi, Seigneur? Et là, le pourquoi ressort. Pourquoi, Seigneur, t'as permis cette épreuve-là? Pourquoi? Frères et sœurs, c'est pas parce que nous sommes chrétiens que le Seigneur nous épargne de vivre des difficultés et des épreuves. Au contraire, très souvent, Dieu fait vivre aux croyants de rudes épreuves. Ça, c'est notre première leçon. Dieu fait vivre aux croyants de rudes épreuves et on va voir pourquoi. Deuxièmement, Dieu ne nous explique pas toujours la raison de ces épreuves. L'épreuve survient et le pourquoi ou la raison de cette épreuve ne suivent pas toujours. Nous savons que c'est pour notre bien, que nous marchons par la foi et que nous lisons la Bible. Nous savons que Dieu est bon, nous savons que Dieu est bienveillant, ce qui n'est pas toujours évident. Nous savons aussi que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est pas nécessairement évident à comprendre non plus, comme verset. Et c'est ce que nous voyons en lisant la vie de Job. C'est ce que nous voyons maintenant dans la veuve, ici, dans la vie de la veuve. Verset 18. Elle dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler les fautes que j'ai commises envers Dieu et provoquer ainsi la mort de mon fils? » En d'autres mots, qu'est-ce qu'elle est en train de dire à Élie ici? « Élie, ta visite, elle m'a absolument rien apporté. Et sinon, la conviction de mes péchés, la mort de mon fils. J'ai été vraiment insolente de te loger chez moi. Et Dieu m'a puni en faisant mourir mon fils. » Elle voit ça comme une punition. Et frères et sœurs, on ressemble un petit peu à la femme de Sarepta. Parce que vous savez quoi? La femme de Sarepta, il a fallu qu'il arrive une vieille rude épreuve dans sa vie pour qu'elle oublie déjà le pot de farine qu'elle a vidé le matin même et la cruche d'huile que Dieu a miraculeusement remplie ces derniers mois. Elle a déjà oublié l'intervention divine de Dieu dans sa vie pendant 3 ans. Non seulement elle va oublier que l'arrivée du prophète fut la plus grande bénédiction de sa vie, mais elle voit maintenant cette bénédiction comme étant une malédiction pour elle dans sa vie. Elle a le cœur brisé au point que son jugement est complètement déformé. Son bon sens n'existe plus et toutes sortes d'idées absolument absurdes et déraisonnables, eh bien, lui viennent à l'esprit. Et là, elle s'effondre à travers ses paroles, eh bien, elle blesse ses amis. Tout son langage nous démontre que dans son fort intérieur, elle se pose à maintes reprises la même question. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi c'est arrivé à moi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, ça m'arrive à moi et que ça n'arrive pas aux autres? Et le pire, c'est qu'elle n'obtient pas aucune réponse de la part de Dieu, ni de la bouche du prophète. La réponse à son pourquoi, frères et sœurs, ne vient pas. Frères et sœurs, Dieu nous fait souvent passer par de rudes épreuves, mais il ne nous répond pas toujours dans l'immédiat à nos pourquoi. Qui est capable de dire ça ce matin? Oh, c'est fragile, hein? Ouais. Dieu nous fait passer par toutes sortes d'épreuves, mais il ne nous donne pas nécessairement toujours le pourquoi. Pour quelle raison on passe par cette épreuve-là? Il y a toutes sortes de chagrins, toutes sortes de douleurs qui nous attendent, et avant même que vous mouriez, vous aurez probablement le cœur brisé des centaines de fois, et presque à chaque fois, sauf exception, vous ne recevrez pas nécessairement de la part de Dieu pourquoi vous avez vécu telle épreuve. Vous ne recevrez pas nécessairement immédiatement de la part de Dieu pourquoi vous avez passé par cette difficile épreuve. Et en troisième lieu, nous avons l'enseignement suivant. L'épreuve ne reste jamais sans effet. Et là, la bénédiction de l'épreuve. L'épreuve, elle ne reste jamais sans effet dans la vie du croyant. Jamais. Dieu ne permet jamais qu'il vous arrive quelque chose pour rien. Dieu n'est pas là pour perdre son temps avec ses enfants. Dieu est là pour les faire grandir. Dieu est là pour les faire progresser. Dieu est là pour faire en sorte d'augmenter la dépendance, qu'ils développent cette dépendance envers leur Père céleste, qu'ils puissent continuellement compter sur lui. Qu'on puisse en venir à dire comme Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour que lui... Oui. Et ça, c'est tout un contrat de la part de Dieu. D'en arriver à dire, Jean, qu'est-ce que tu vas comprendre un jour? Que ce que les gens doivent voir, c'est pas Jean Cudon, mais c'est Jésus-Christ à travers Jean Cudon. Et le Seigneur est clair. Tant et aussi longtemps qu'on n'en sera pas rendu là, je vais permettre que des épreuves arrivent dans ta vie. Parce que je t'ai sauvé pour t'amener à ressembler à Jésus-Christ. Alors, frère et soeur, quelqu'un qui vit dans le péché, il va passer par des épreuves terribles. Il va vivre des situations épouvantables. S'il appartient vraiment au Seigneur, parce que le but du Seigneur, c'est de l'amener à refléter la gloire de Jésus-Christ. Et la gloire de Jésus-Christ, je le dis, hein, c'est la présence de Jésus. C'est la puissance de Jésus. Et c'est aussi les attributs que Jésus avait. Et ça, on retrouve ça finalement dans les épîtres de Paul, c'est-à-dire de produire en nous le fruit de l'Esprit. C'est ça que Dieu veut. Je le répète, et c'est ce qu'on voit à travers un roi. Ce que Dieu veut, ce n'est pas des hommes qualifiés. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui sont consacrés. L'épreuve a toujours chez l'enfant de Dieu un effet sanctifiant. Il est vrai que Dieu s'intéresse à mon bonheur, mais il s'intéresse beaucoup plus à ma sanctification. Parce qu'il est écrit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, versets 10b à 11, ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner avec moi. Hébreux chapitre 12, verset 10b, et la deuxième partie du verset 10, c'est le verset 11. Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Donc, ce n'est pas écrit que Dieu nous châtie pour nous démoler, pour nous détruire, pour nous tuer, pour nous faire mourir. Dieu nous châtie pour notre bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, et c'est vrai, hein? Ça peut être à travers une épreuve, ça peut être à travers de certaines difficultés courantes de la vie. C'est vrai que, bon, ça nous rend pas nécessairement heureux sur le coup. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Eh bien, et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Le fruit paisible de justice, eh bien, c'est un des fruits de l'esprit. Le fruit paisible de justice, c'est quoi? C'est un fruit qui nous amène à vivre comme Dieu veut qu'on vive. C'est ça, le fruit de justice, en fait. C'est pas autre chose que ça, quoi. Alors, je répète, l'épreuve produit toujours chez les enfants de Dieu, et cela sans aucune exception, un effet sanctifiant. Jean, chapitre 15, verset 2. J'aimerais que vous lisiez ça ensemble, qu'on lise ça ensemble, parce qu'il y a un petit mot qui nous échappe dans Jean, chapitre 15, verset 2, souvent, quand on le lit, parce que, pas parce qu'on est inattentif, mais parce qu'on est habitué à le lire, et souvent, on porte pas attention, quoi. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Bon, je ne commencerai pas à rentrer dans celui-là ce matin, c'est la deuxième partie qui m'intéresse. La première partie, vous l'interprétez comme vous voulez. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Frères et sœurs, ça c'est vous ce matin. Le Seigneur est en train de dire que tout enfant qui m'appartient, qui porte du fruit, eh bien, peut s'attendre à ce que je provoque des épreuves dans sa vie. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils produisent encore davantage de fruits. C'est extraordinaire, hein? Pourquoi on émonde les arbres fruitiers? Ce n'est pas pour les faire mourir, c'est pour qu'ils produisent davantage. Si on le laisse aller, tôt ou tard, ils risquent de produire moins de fruits, et un jour, on va finir par l'abattre. Mais si Jésus ne dit pas, tout serment qui ne porte pas de fruits, je l'émonde, non. Celui qui ne porte pas de fruits, il retranche, quoi. Mais celui qui porte du fruit, le Seigneur, il dit, hey, moi, ce que je veux, c'est que tu produises, tu produises, tu produises. Que tu produises. Qu'est-ce qu'il dit ici? Eh bien, je vais t'émonder. Ça fait mal. Heureusement qu'on n'entend pas les arbres crier. Heureusement que les arbres n'ont pas de langue, parce que chaque fois qu'on taille, peut-être qu'on entend « Oui, aïe, aïe, aïe! » Mais le but de l'émondage dans la vie du chrétien, c'est quoi? C'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal sur le coup. Mais le but, c'est de nous faire en sorte qu'on puisse produire encore plus de fruits. Bon, je ne vous dirai pas ça pour vous me jeter dehors ce matin. Mais Amal me dit, quand ils avaient un pasteur et un conseil, il y avait 10-12 personnes. Maintenant, il n'y a plus de conseil, il n'y a plus de pasteur, ils sont rendus 40. Vous avez compris pourquoi je vous dis, il ne faut pas que je vous dise, vous pensez que je vous dis ça pour vous mettiez dehors, quoi. L'Église a besoin de berger, l'Église a besoin d'un conseil, quoi. Mais c'est simplement pour vous montrer une chose. C'est que le Seigneur, finalement, il n'a pas besoin de nous pour remplir son Église. C'est une grâce qu'il nous fait. Et si on laisse le Seigneur nous émonder, on va produire du fruit en abondance. Du fruit digne de la repentance. Du fruit, les mêmes fruits que Jésus produisait. Et ça va faire le même effet que Jésus avait. Ça va attirer les gens. Ça va attirer les gens vers celui qui veut sauver encore aujourd'hui. Le Seigneur, je sais que le Seigneur n'a pas besoin de moi. Et j'espère que vous avez la conviction que le Seigneur n'a pas besoin de vous. Et que c'est une grâce qui vous fait de pouvoir proclamer l'Évangile, puisque c'est une grâce qui ne fait même pas aux anges. Il le fait à des pécheurs sauvés par grâce. À ses enfants, ses héritiers. À ceux qui sont prêtres en Jésus-Christ. C'est une grâce qu'il nous fait, quoi. Et même si on arrive, et c'est ce que je trouve bien avec Mission Vacances, souvent on arrive, on est sur la digue, on ne sait pas quoi dire, et le Seigneur, à travers nos bouches, on ouvre notre bouche et le Seigneur, il parle, quoi. Et on s'aperçoit que souvent, les meilleurs témoignages, c'est quand on n'est pas préparé. Ouais. Parce que là, on est obligé de dire ce qu'on vit. Et si on ne vit rien, on n'a rien à dire, quoi, avec le Seigneur. Vous vous souvenez ce que Jésus dit à celui qui l'a guéri dans Luc et qui voulait le suivre? Il dit, non, 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 tu vas aller évangéliser maintenant. Qu'est-ce qu'il lui dit? Retourne dans ta ville et va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça le témoignage chrétien. Va raconter, en fait, le changement que ça produit, que tu m'aies rencontré personnellement. Et c'est ça le témoignage. Les gens cherchent le changement à l'extérieur, à travers des partis politiques, à travers toutes sortes de choses. Ces changements-là, ils sont décevants. Mais lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, il y a un changement incroyable qui se passe dans nos vies. Et c'est un changement qui est appelé, si on continue à garder nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est appelé à durer, qui est appelé à s'affermir et à durer pour l'éternité. Et c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Va dans ta famille et va raconter le changement que Jésus a opéré dans ta vie le jour où tu l'as rencontré. C'est tout ce que les gens veulent. Pas de théologie. Va raconter à ta famille ce que Jésus a fait dans ta vie. Maintenant, si tu ne vis pas comme Dieu te demande de vivre, tu n'as rien à dire, quoi. Tu n'as rien à dire. Parce que si tu racontes un témoignage que tu ne vis pas personnellement, les gens ne sont pas fous, ça ne passera pas, quoi. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, c'est une question de cœur à cœur. De cœur à cœur. Et celui qui ne vit pas ce qu'il dit, eh bien, ça n'a aucun effet sur les autres. Le témoignage, et Dieu veut nous émonder, pour nous fortifier. Il ne nous dira pas pourquoi. Pourquoi il permettait l'épreuve? Et si Dieu le fait, bien écoutez, c'est pas toujours facile. Et rendons-lui gloire. Ça veut dire que Dieu s'occupe de nous. Et ça veut dire que Dieu veut aussi nous utiliser pour sa gloire. Je t'amène à ça ce matin? Oui. Et maintenant, nous allons voir rapidement comment Dieu va soulager cette veuve. Mais avant, essayez d'imaginer la misère et la tristesse ressentie par cette veuve convaincue de péché, qui tient sur ses genoux le cadavre de son enfant. Mais quelle différence énorme aussi il y a entre la foi d'Élie et la foi de la veuve. Le fils de la veuve était mort et elle avait abandonné sa foi en Dieu, une foi qui n'était pas plus grande que la foi que manifestaient la plupart des gens en Israël. Il est évident que la parole de Dieu n'occupait pas et ne dirigeait pas la vie de cette veuve. Sa foi est minuscule, elle est faible, elle est mal affermie si on la compare à la foi d'Élie. C'est même pas une foi qui est capable de déplacer une montagne. Pensez ici à Abraham, quand Dieu lui demanda de tuer son fils qu'il avait promis de lui donner. Il se laissa complètement diriger par la parole du Seigneur tout en s'accrochant à ce qu'il avait promis. Dieu lui avait dit que son fils Isaac deviendrait l'ancêtre d'une grande nation. Mais avant même que Isaac n'ait un seul enfant, Dieu va ordonner à Abraham de l'offrir en sacrifice. Écoutez, ça ne tient pas debout, quoi. La seule façon que Abraham pouvait avoir une postérité, c'était à travers du seul fils que Dieu lui avait donné. C'est-à-dire le fils de la promesse et pas le fils de l'esclave, le fils de la promesse. Mais avez-vous remarqué quelque chose dans Genèse chapitre 22, rapidement, dans le premier livre de la Bible? Verset 5, 22-5. Et là, on voit qu'Abraham avait une grande foi. Hein, il prépare toute sa petite popote pour aller faire son sacrifice. Et là, au verset 5, eh bien, il est arrivé au pied de la montagne. Et là, il dit, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » Et il ne dit pas, « Et je reviendrai auprès de vous. » Écoutez, il s'en va tuer son fils, il s'en va le sacrifier. Un gars qui n'a pas la foi, il dit, écoutez, moi je m'en vais avec mon fils, puis je vais revenir. Mais non, il dit, on va revenir, c'est ce qu'il dit, hein? C'est pas moi qui l'invente. Et nous reviendrons, hein? Il dit pas, et je reviendrai. Et nous reviendrons. Vous avez la réponse de ça dans Hébreux chapitre 11, verset 19. La Bible a une réponse à toutes. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Frères et sœurs, nous sommes en présence du Père des croyants qui avait déjà la foi, qui croyait que Dieu avait la capacité de ramener les morts à la vie. Et on parle de Genèse. On parle de Genèse. C'est important, ça. C'est important. Écoutez, même jusque-là, Abraham avait la conviction que tout ce que Dieu promettait, il l'accomplirait. Et il dit, on s'en va sur la montagne, il dit pas, moi, écoutez, attendez-moi parce que je vais revenir tout seul, il va se passer quelque chose. Nous reviendrons. Il y avait la conviction que peu importe s'il devait offrir son fils en sacrifice, Dieu avait le pouvoir de le ramener de la mort à la vie. C'est une préfiguration de ce que Christ va accomplir à la croix. Christ avait la conviction que Dieu avait la capacité de le ramener de la mort à la vie. Et Romains chapitre 1, verset 4 nous dit que c'est par la puissance de l'Esprit que Christ a été ramené de la mort à la vie. Frères et sœurs, ils pensaient que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts ou s'il retrouvera, pour ainsi dire, son Fils ramené d'entre les morts. C'est pas extraordinaire, ça? Hébreux chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme espérance des choses qu'on espère et de ce qu'on ne voit pas. Abraham, il ne voyait pas, hein? Il n'y a personne avant lui qui était revenu de la mort à la vie. Hein? Personne. Hein? C'est ça, la foi. La foi, ça va la certitude qu'on ne se convoit pas, Dieu est capable de l'accomplir. Non seulement qu'il est capable de l'accomplir, mais qu'il va l'accomplir. Et Abraham, tous ces héros de la foi ont fonctionné. C'est ça, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Seigneur, je ne vois pas, mais tu ne renieras jamais ta parole pour moi. Ta parole, elle est fidèle depuis toujours. Et Seigneur, ce que tu as promis, je suis convaincu que ça va se réaliser. Non seulement dans ma vie, mais dans la vie de ceux qui ont la même foi que moi. Dans la vie de ceux qui partagent la même foi que moi. Et Seigneur, j'y vais par la foi. Je ne mets pas en doute ce que tu dis, Seigneur. Et Abraham, il part et il fait, quoi. C'est pas extraordinaire? Cependant, la veuve de Sarepta démontre manifestement qu'elle n'a pas une telle foi dans les promesses de l'Éternel. Dieu avait promis de les maintenir en vie et il lui prenait maintenant son fils. Elle ne comprenait pas. Elle pensait donc que Dieu n'était pas digne de confiance. Et au lieu de croire comme Abraham l'a fait, elle a abandonné la foi qu'elle avait en Dieu. De son côté, Élie va réagir différemment. Bien sûr qu'il éprouve de la compassion pour cette pauvre femme, et d'une voix calme, il va lui dire, verset 19. On retourne dans 1 Roi, verset 19. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne fait pas un gros discours, hein? Parce que ce n'est pas elle qui veut faire le discours. Il sait qu'elle ne peut rien faire pour son fils. Son discours, il va le faire à Dieu. Et le discours qu'il va faire à Dieu va être beaucoup plus long que celui qu'il va faire à cette femme. Et frères et sœurs, souvent quand on a à se plaindre, hein, on a l'air à dire aux gens qui nous ressemblent. C'est pas ça que Dieu veut. C'est qu'il veut qu'on aille en donner beaucoup à lui dire à lui, parce que c'est lui qui est capable de régler nos problèmes, quoi. C'est pas vrai ou c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce qu'il nous donne ici comme exemple, quoi. Il lui dit, donne-moi ton fils. Et le texte nous dit, verset 19, qu'il va monter dans la chambre haute où il demeurait, et il va coucher l'enfant sur son lit. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier l'Éternel. Et contrairement à la veuve, Élie va continuer à faire confiance à Dieu. Il va lutter avec Dieu dans la prière, et il va supplier Dieu. Il va rappeler à Dieu sa promesse, et par la foi, il va demander à Dieu de ramener à la vie cet enfant. Quelle prière par sa simplicité et par sa profondeur, frères et sœurs. Et pourtant, Élie était un homme comme vous et moi, nous dit la parole. Regardez, on continue. Constatez l'hardiesse du prophète, verset 20. Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte, en faisant mourir son fils? Quelle prière, mes amis! Voyez la nature positive de ces prières. Verset 21. Éternel mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. Et il y s'accroche, saisit le Dieu des promesses et intercède jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse de sa part. Voilà sur le terrain sur lequel se tient Élie. Et sur cette base-là, il va plaider auprès de Dieu. Il présente son argumentation devant Dieu, pas devant les hommes, devant Dieu qui lui seul peut ramener de la mort à la vie quelqu'un. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Hein, la veuve, c'est ainsi que tu récompenses cette veuve? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Élie? C'est ainsi que tu récompenses cette veuve qui m'a donné une hospitalité? Il importune le Seigneur parce que c'est un croyant. Et il s'accroche à la promesse faite par Dieu. Il demeure convaincu que le Seigneur entendrait sa prière et qu'il confirmerait la véracité de sa parole. « Je suis le Dieu des vivants, dit le Seigneur. » Pas le Dieu des morts. S'il était le Dieu des morts, après qu'une personne décède, Dieu ne peut rien faire avec. Mais il est le Dieu des vivants. Et tous ceux qui vivent leur foi en Jésus-Christ, eh bien, il promet une chose en tant que Dieu des vivants, il va les ramener de la mort à la vie pour les faire régner avec lui pour l'éternité. Est-ce que c'est votre espérance ce matin? Oui. Élie est du même tempérament que nous. Élie possède la même foi que nous. Abraham, il possède la même foi que nous. Abraham, dans Genèse, au tout début, le premier croyant, il a la conviction que Dieu a la puissance pour ramener Isaac de la mort à la vie. Et c'est pour ça qu'il dit à ses serviteurs, attendez, on va revenir tous les deux. Je reviendrai pas tout seul, parce que c'est le Dieu de la promesse qui me demande de sacrifier. Et si c'est le Dieu de la promesse, il a promis qu'à travers Isaac, il y aurait une postérité. Donc, Dieu peut pas renier sa parole. Dieu peut pas changer d'idée. Et Abraham, par la foi, il marche dans cette promesse. Et frères et sœurs, Dieu veut aussi qu'on marche en fonction des promesses qui nous sont dans la parole, parce que Dieu est digne de confiance. Verset 22. Voilà pourquoi Élie va rappeler au Seigneur de tenir sa promesse. Et vous savez ce qui est arrivé, verset 22. Et ça, c'est intéressant, ça. Parce que c'est un des noms de Dieu, ça, dans le psaume. Celui qui écoute la prière. C'est un nom de Dieu, ça, en hébreu. Dieu porte un nom en hébreu qui signifie celui qui écoute la prière. Et regardez ce qu'il dit ici. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revient au-dedans de lui, et il lui fut rendu à la vie. Et Élie va s'étendre trois fois de tout son long sur l'enfant en priant à l'Éternel. Et il est écrit que Dieu écouta la voix d'Élie et qu'il rendit la vie à l'enfant qui se remit à respirer. Et Élie, verset 23, Élie reprit l'enfant, le ramena en bas de la maison et le rendit à sa mère en disant, « Regarde, il n'y a pas grand-chose à dire à la mère. Il a tout raconté à Dieu. Il est exaucé par Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à la mère? Regarde, ton fils est vivant. » Élie était un homme comme vous et moi. Si Dieu, à travers Élie, est capable de ramener des morts à la vie, est-ce que vous pensez qu'à travers vous, croyant en Jésus-Christ, qui avez la même foi, est-ce que vous croyez que Dieu, aujourd'hui, a la capacité de ramener les morts à la vie? Ça va? Un là? Mon courage? Ce côté-là, est-ce qu'il y en a un qui peut se lancer? La nouvelle naissance, frères et sœurs. Les gens dehors sont morts spirituellement. Et à travers vous, Dieu veut les ramener à la vie spirituellement. Quel miracle! Vous êtes incapables de ramener les morts à la vie, comme Élie était incapable de ramener des morts à la vie. Mais par la foi en Jésus-Christ, Dieu veut vous utiliser pour ramener des gens qui sont morts spirituellement et les faire revivre spirituellement dans le royaume de Dieu. Parce que vous avez la même foi qu'Abraham, parce que vous avez la même foi qu'Élie, parce que vous avez la même foi de tous ceux qui vous ont précédé. D'abord dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et aussi dans toute l'histoire de l'Église. Est-ce que vous croyez maintenant que Dieu veut que vous rameniez des morts à la vie aujourd'hui? C'est pas fort, ça. Vous y croyez? Vous le savez? Est-ce que vous y croyez? Rappelez-vous, Marthe. Elle savait que Jésus ramènerait les morts à la vie à la fin. Mais ne croyez pas qu'il ramènerait Lazare. J'ai expliqué déjà ici, avant la 15 minutes, un dimanche, il y a 3 mois, la différence entre savoir et la différence entre croire. C'est pas parce que je sais que je crois, nécessairement. Je peux savoir beaucoup de choses de la parole de Dieu. Si j'obéis pas, j'ai pas la foi. Tout simple que ça, c'est que j'y crois pas. Les pharisiens étaient comme ça. Ils connaissaient la parole, ils connaissaient la loi, tous les préceptes. Ils obéissaient pas. Ils croyaient pas. Je l'ai dit il y a 2 semaines, c'est la première fois que la Bible parle de la merveilleuse puissance de Dieu pour ressusciter les morts. Avec Abraham, on va découvrir quelqu'un qui croyait dans la puissance de Dieu pour ressusciter les morts. Et c'est cette foi qui va permettre à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice au Seigneur. Mais c'est avec Élie que nous voyons pour la première fois quelqu'un être réellement ramené de la mort à la vie. Soudainement, la veuve, elle fait une prise de conscience ici. Elle savait que l'Éternel, Dieu était vivant. Elle savait. Mais maintenant, elle croit. Et elle va vivre dorénavant en fonction de sa foi. Elle croit maintenant. En d'autres mots, Dieu est vraiment Dieu. Quelle leçon, n'est-ce pas? Dieu est vraiment Dieu. C'est lui le seul Dieu. C'est lui le véritable. C'est lui le Dieu des vivants. Elle savait. Et même les miracles n'ont pas empêché d'abandonner sa foi. Frères et sœurs, le jour où Jésus était crucifié, Jean nous dit, le dernier verset du chapitre 21, que si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, tous les miracles qu'il a fait, la terre ne serait pas suffisamment vaste pour qu'on puisse étaler les livres un à côté de l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez la grandeur de la terre en kilomètres, c'est assez grand. Hein? Ouais. Et il y en avait combien qui criaient « Sauvez-le » le jour de sa résurrection? Sauvez-le! Sauvez-le! Il m'a guéri, sauvez-le! Oh, crucifie-le! Crucifie-le! Il nous dérange parce qu'il nous dit ce qu'on a fait de mal. Il nous dérange! Crucifiez-le! Et les pharisiens par en arrière, allez, let's go, allez-y, lâchez pas! Mettez du charbon dans le poêle, allez-y! Ils enflammaient la nature humaine de ces gens-là. Ouais, elle savait maintenant que l'Éternel était vivant. Maintenant, elle croyait. Et croire que Dieu est vivant, c'est plus que savoir. Croire que Dieu est vivant, c'est croire que Dieu va agir dans ma vie. À partir du moment où je tombe en genoux en prière devant lui et que j'intercède, que je le supplie, que je crie après lui, Dieu va répondre parce que Dieu est un Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Le miracle de la résurrection de son fils va renouveler la foi de la veuve de Sarepta dans le Dieu des promesses, qui est certainement, frères et sœurs, le but de la plupart des miracles, conduire les gens à la foi dans le Dieu vivant. Bon, rapidement. Frères et sœurs, voilà l'enseignement principal de ce passage. Nous pouvons faire confiance en Dieu, à ce qu'il promet, parce qu'il l'accomplit toujours. C'est pourquoi Dieu, qui avait repris ici dans le passage la vie de l'enfant, va lui rendre à nouveau son fils. Il voulait lui montrer que nous pouvons lui faire confiance et croire en ses promesses, parce que Dieu ne revient jamais sur sa parole. Est-ce que c'est clair pour vous ce matin, frères et sœurs? Dieu ne revient jamais sur sa parole. C'est pour ça qu'on dit que Dieu, sa fidélité, elle dure éternellement. Dieu, ce qu'il a dit, il l'accomplit. Ce que Dieu a dit, il ne le reniera jamais parce que Dieu ne revient jamais sur sa parole. Ce qui est consolant pour nous, c'est que il est vrai qu'il est fidèle, mais la Bible nous dit que sa fidélité, elle dure éternellement. Donc, on peut être certain que même de notre côté, dans le royaume des cieux, sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, un jour, peut-être en l'an 2000, en l'an 20450, eh bien, sur cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, ben Dieu dira pas, ben Jacques, c'est sûr, je viens de penser à tout ce que tu as fait au 20e ou du 21e siècle. Là, je viens de changer d'idée. Ça, c'est extraordinaire, hein? C'est simple ce que je suis en train de vous dire là. Et jamais Dieu va vous dire ça, même dans l'éternité. Vous êtes passé de la mort à la vie, et bien vous êtes sauvé. Et vous faites partie du royaume de Dieu. Et Dieu a des choses extraordinaires pour chacun de vous. Des promesses magnifiques. Et ce que Dieu veut nous amener en Jésus-Christ, c'est de dire comme l'apôtre Paul, tout ce qu'on voit dans le monde, et bien qu'on puisse considérer ça comme étant de la boue. De la boue. Ça, c'est quelqu'un qui avait une relation intime et personnelle avec Dieu. Dans la prison, enchaîné, être capable de dire, écoute, tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est de la boue. Pourquoi? Parce que de la boue, un jour, ça finit par sécher. Ça finit par disparaître. Et tout ce que je vois à l'extérieur, ça va finir un jour par disparaître. Alors, pourquoi je devrais m'attacher à toutes ces choses-là? Pourquoi? Quelle perte de temps! Quelqu'un a écrit ceci un jour, et je termine avec ça. Seigneur, aujourd'hui, j'ai une conviction inébranlable, une certitude que ce que tu as dit est juste et vrai. Car aujourd'hui, Seigneur, je me sens mieux dans ce corps malade, et la douleur constante que je ressentais est en train de disparaître tranquillement. Et si demain, je dois encore ressentir des courbatures qui m'épuisent et qui me font tordre de douleur jusqu'à ce que je m'endorme, alors, Seigneur, accorde-moi la force nécessaire de croire sans douter, de croire sans voir, de serrer ta main invisible et de compter sur toi jusqu'à mon réveil. Et frères et sœurs, alors que les années passent, je ne connais pas les épreuves ni les difficultés que Dieu va permettre que vous affrontiez. Mais peu importe ces épreuves ou ces difficultés, qu'elles soient grandes ou petites, je prie que vous gardiez la foi et que vous continuiez à faire confiance à Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur a accompli aussi pour nous un grand miracle à travers la résurrection. Il a ressuscité son propre Fils afin que, comme la veuve, nous puissions rendre témoignage à sa fidélité, que nous puissions faire confiance à tout ce qu'il promet. Et lorsqu'il est mort, ses apôtres et ses disciples perdirent dans un premier temps, eh bien, tout espoir en Jésus. Ils se demandaient, Luc chapitre 24, 21, si c'était lui qui devait délivrer Israël. Mais lorsqu'il est ressuscité des morts, il savait que Dieu était le vrai Dieu et que ce qu'il promet, il l'accomplit toujours et que Christ est exactement celui qu'il disait être, c'est-à-dire le Fils éternel de Dieu, c'est-à-dire le serviteur souffrant du Seigneur, dans la description qu'Isaïe en fait dans son livre. Quel est le message du tombeau vide, frères et sœurs? C'est que nous pouvons faire confiance à Dieu. On peut faire confiance au Dieu des promesses, car il accomplit toujours ce qu'il dit. Il l'a fait avec Abraham. Il l'a fait avec Élie. Il l'a fait avec la veuve. Il l'a fait avec Jésus. Et il va le faire sûrement. Il va le faire pour vous. Il va le faire pour moi, puisqu'il l'a déjà fait en nous ramenant de la mort à la vie. En un peu moins de 3 ans, Élie a été une force pour soutenir la vie spirituelle de cette veuve. Mais maintenant, il peut et peut la quitter, parce qu'elle est suffisamment établie dans sa foi pour qu'on la laisse seule. Élie est aussi, lui aussi, rassuré. Il sait que Dieu l'écoute, et tous les deux sont plus forts grâce à cette épreuve. Frères et sœurs, et là je termine avec ça, deuxième fois, donc c'est la bonne. Dieu va certainement envoyer dans votre vie beaucoup de rudes épreuves. Il ne va pas répondre toujours immédiatement à vos pourquoi, mais toutes ces épreuves auront un effet sanctifiant si vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Je parlais avec quelqu'un cette semaine concernant un décès, et cette personne-là me disait, ben, j'aurais préféré partir avant. Oui, mais si tu étais parti avant, peut-être que celui que tu aurais laissé ou celle que tu aurais laissée n'aurait pas eu la force de continuer à vivre. Dieu savait laquelle des deux avait la capacité de laisser partir l'autre, avait la capacité d'assumer tout seul les responsabilités qu'ils assumaient à deux. Dieu ne se trompe jamais. Il sait qui doit partir le premier. Il sait qui doit partir le dernier. Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir. Et à travers ça, même à travers le décès, parce que ça vient du péché, hein, la mort est entrée dans le monde à cause du péché, eh bien, Dieu veut quand même nous fortifier, veut nous rappeler qu'il est là. Et que c'est une épreuve que tout le monde va vivre, la mort. Aujourd'hui, il n'est souriant. Je regarde mes enfants. Et un jour, ils auront de la tristesse, j'espère, en tout cas. Le jour où je vais mourir, quoi. Hein? Oui. Donc, il y a des tristesses, il y a des épreuves, des difficiles qui nous attendent. En principe, la règle générale, on va tous enterrer nos parents un jour. Et ça ne sera pas dans la joie. La joie, c'est qu'on va les revoir au ciel. La tristesse, c'est qu'on est privé de leur présence. Et on se rappelle tout ce qu'ils nous ont apporté dans notre vie, quoi. Alors, il y a des épreuves que vous allez vivre, frères et sœurs. Mais rappelez-vous le but de ces épreuves-là, quoi. Dieu ne répond pas toujours, vous allez avoir de rudes épreuves, Dieu ne répondra pas toujours à vos pourquoi. Mais il y a une chose de sûre, c'est que toutes ces épreuves auront un effet sanctifiant si vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Amen.